Visiblement, les initiateurs de cette démarche, les pays arabes, se sont souvenus du précédent d'un avis rendu par la Cour internationale de justice en 1970 au sujet de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, que l'on appelait alors le Sud-Ouest africain. La Cour a effectivement rendu un avis très défavorable à l'Afrique du Sud. Elle a constaté l'illégalité de cette présence. Là, on voit très bien l'analogie qui s'est créée dans l'esprit des promoteurs de ce projet entre les deux situations. Finalement, l'érection d'un mur a été perçue par certains comme la constitution de zones séparées, isolant les Palestiniens.
Mais alors, en 1970, quelles avaient été les conséquences concrètes de l'avis donné par la Cour internationale de justice et quelles peuvent être les conséquences d'un avis rendu aujourd'hui dans la géopolitique actuelle ?
Cet avis juridique formulé par la Cour internationale de justice a été déterminante dans le processus qui a conduit au départ de l'Afrique du Sud de Namibie et plus généralement, cela a contribué à la disparition de l'apartheid. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences importantes, mais il faut bien noter qu'un grand nombre d'États se sont abstenus au moment de l'adoption de la résolution, ce qui montre bien qu'ils craignent justement une utilisation excessivement politique de l'avis que pourrait formuler la Cour.
Pourtant, concernant Israël, Tsahal a d'ores et déjà annoncé que, quel que soit l'avis rendu, elle continuerait à édifier le mur.
L'autorité sera en tant que telle strictement juridique, mais on peut difficilement imaginer que cela ne crée pas un point de non-retour dans la mesure où cela va clore tous les débats juridiques sur un certain nombre de questions. Et donc, par conséquent, ça doit logiquement canaliser la discussion dans le processus de paix qui va s'engager inévitablement.
Les États-Unis n'ont pas soutenu la saisine de la Cour de justice, invoquant le suivi nécessaire de la feuille de route. Des experts judiciaires, d'autre part, des experts judiciaires internationaux, expliquent plutôt cette non-adhésion des États-Unis par la crainte d'une ingérence de la Cour dans leurs affaires, notamment en Irak.
Oh, ça, c'est évidemment un aspect très important de cette affaire, parce que les questions qui sont posées à la Cour, elles vont avoir un impact énorme sur le droit international des conflits armés. Et on peut s'attendre effectivement à une petite, non pas une révolution, mais en tout cas à un progrès significatif du droit international de crise. Et là, bien sûr, les conclusions que l'on va pouvoir tirer de cette affaire sont transposables à d'autres situations peut-être aussi difficiles. Même à la situation actuelle en Irak et à l'occupation américaine.
Et au sein de l'Union européenne, de nombreux États se sont abstenus, notamment la France et l'Allemagne. Pourquoi ?
À l'origine, il y a une initiative qui peut apparaître comme étant dangereuse en raison de l'utilisation qui pourrait en être faite au niveau politique et notamment au niveau de l'Assemblée générale. Et par conséquent, de nombreux États se sont réfugiés dans une position d'abstention et non pas nécessairement d'opposition. Et la position d'abstention est commode, puisqu'elle permet de prendre un minimum de recul et de juger le résultat. Je crois que c'est la première fois qu'une juridiction internationale est amenée à se prononcer véritablement sur l'état du droit applicable dans cette région. Donc c'est une opportunité extraordinaire et il faut l'exploiter. Dire le droit, c'est fixer des bornes et normalement, on peut compter sur l'intelligence et l'expérience de ces juges pour laisser la porte ouverte au débat politique qui devra naturellement se développer ensuite.